10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Vous le savez, nous avons rendez-vous tous les samedis pour parler d'islam pendant une heure, 10h, 11h avec l'imam Abdelali Mamoun. Comment ça va, imam Abdelali?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bah, alhamdulillah, ça va Philippe. Et toi?
Très bien, très très bien.
Écoute, je suis content, je suis ravi pour toi et d'être aussi avec tous nos toutes nos auditrices et auditeurs fidèles tous les samedis matins. Inch'Allah, de 10h à 11h, bah, soyez nombreux, faites passer le message, Inch'Allah ta'ala, pour qu'on puisse encore plus nombreux.
Mais plus nombreux encore.
Voilà, et puis pour accueillir ce Ramadan qui va bientôt arriver, puisque nous sommes le mois de Rajab, c'est l'avant-dernier mois avant le mois du Ramadan.
Oui, et, deux mois, il reste encore deux mois.
Un peu moins.
Oui, un peu moins.
Moins de
deux mois. Mais deux mois, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, il peut se passer beaucoup de choses.
Ouais, deux mois...
Mais bon, c'est...
Il y a la Omra, déjà.
Inch'Allah, oui, il y a une Omra. Oui. Donc, ceux qui veulent y aller avec moi, ils peuvent effectivement s'inscrire pour partir le 23 février, Inch'Allah, prochain. C'est un endroit magnifique. Moi, je vous conseille d'aller là-bas parce que c'est un endroit où est-ce que, bien entendu, là où le prophète a marché, a mis ses pieds, a circulé, a vécu, a respiré l'air... C'est vous êtes au cœur, au berceau de l'islam. Vous découvrez la fraîcheur spirituelle de cet endroit magnifique qui est donc la Mecque, notamment en premier, puis ensuite le Madina Munawwara. Non, d'abord le Madina, ensuite Mecque al Mukarrama. Mais dans l'ordre de privilèges et d'avantages, c'est bien entendu Mecque qui est au-dessus du lot, le meilleur endroit sur terre. Et donc aller là-bas, c'est une opportunité que si vous l'avez, ben ne faut pas la gâcher. Vous le regretterez pas. C'est extraordinaire ce qui se passe là-bas. Mashallah.
Bien, alors Imam Abdelali, vous avez choisi de parler aujourd'hui d'un thème dont on parle beaucoup, c'est l'empathie.
On parle beaucoup, je savais pas qu'on en parlait beaucoup.
Ah oui, l'empathie maintenant, c'est une des on appelle ça une soft skills, c'est-à-dire une compétence douce, l'empathie.
Une compétence douce.
Ouais, c'est pas faux. Ça fait partie des nouvelles compétences comportementales de savoir-être, Imam Abdelali.
Tout à fait. C'est ô combien vrai ce que tu dis, Philippe. C'est un effort sur soi-même que de donner du temps pour autrui. Mais le souci, Philippe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que faire preuve d'empathie, c'est une perte de temps. Parce que ils pensent que comme elle n'est pas mise en évidence de manière claire dans le Coran et dans la Sunna, on pense qu'elle n'est pas forcément quelque chose de louable, ou par exemple, on ne peut pas privilégier l'empathie, c'est-à-dire donner du temps pour soulager la détresse ou du moins soutenir la détresse d'une personne en difficulté, que par exemple que de faire la prière. Elle serait pas mieux, quoi. Ça serait pas mieux que de faire la prière. La prière serait mieux que de faire preuve d'empathie. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est faire preuve d'empathie est mieux que de prier des prières surérogatoires. Est mieux que de jeûner. Est mieux que de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que finalement,
mais
l'empathie.
Quand vous dites mieux, ça veut dire quoi?
C'est mieux rétribuer. C'est-à-dire apprécié auprès de Dieu que de se prosterner, de s'incliner, de prier. Eh bien, c'est moins, l'inclinaison, la prosternation dans la prière est moins bien rétribuée que de faire preuve d'empathie et de, non pas de se pencher en direction de Dieu pour le vénérer, mais de se pencher vers cette personne fragile, se soucier, être attentif à ses besoins, le consoler, le soutenir, l'aider, voilà, pourquoi pas même faire ce qui est dans la capacité, dans la mesure du possible, tout ce que l'on peut faire pour finalement lever de cette personne la contrainte, l'adversité dans laquelle il est en train de vivre. Donc le croyant est invité à faire preuve d'empathie. C'est une des caractéristiques divines. C'est un attribut divin. C'est un attribut divin des plus nobles. Alors tu vas être étonné quand je vais te le dire, Philippe, en arabe. C'est le terme al-jabbar. Al-jabbar. Le terme al-jabbar. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, ça veut dire
autre chose, ouais.
Non, il y en a qui l'interprètent, ce mot-là, comme étant Al-Jabbar, c'est celui qui tyrannise, et tyrannise, Al-Jabbar, c'est-à-dire Jabbar al-Nas, c'est-à-dire qui fait preuve de tyrannie sur les gens, alors que c'est totalement faux. Le mot ici, Jabbar, veut dire celui qui yajbourul khawatir, celui qui fait preuve d'empathie et soulage la souffrance de ceux qui sont en difficulté. Le croyant lui-même, dans la prière, entre deux prosternations, quand il est à genoux, entre les deux prosternations, entre les deux soujouds, il dit « Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wajburni ». Il dit « wajburni », c'est-à-dire « Oh mon Dieu, fais preuve d'empathie envers ma personne. Comble-moi de ton empathie. Accorde-moi et fais preuve d'empathie envers ma personne. » Et donc « wajburni », c'est la prière et l'invocation de dire « wajburni » est une invocation que pratiquait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui à maintes reprises lui-même a fait l'objet d'une empathie de la part de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu est par excellence l'empathique. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il est le Dieu empathique. C'est un Dieu qui est constamment, et dans le Coran, une multitude de versets nous prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est un Dieu empathique. Et qu'il y a une multitude de versets qui nous parlent d'empathie. Donc le croyant est empathique, il aime l'empathie, il doit faire preuve d'empathie, et il n'y a pas plus noble d'action que de faire preuve d'empathie quand vous asseyez, vous écoutez et vous prenez le temps de soulager et de répondre et de dire à une personne: t'inquiète pas, c'est pas grave, inchallah on va y arriver, Allah il va t'aider, inchallah qu'Allah il t'aide. Le fait de faire des duas, de soulager, de consoler, de réconforter, c'est ça là l'empathie. C'est tout simplement c'est ces quelques mots là réconfortants qui sont aux yeux d'Allah, qui pèsent, mais qui pèsent énormément dans la balance. Il n'y a pas d'acte, je répète, le Soufiane al-Thawri, rahimahullah, le disait, il n'y a pas d'acte qui rapproche le croyant de son serviteur que de faire preuve d'empathie. C'est ce qu'on appelle en arabe jabr al-khawatir. Jabr al-khawatir. Et le contraire est un des plus graves actions. Kasr al-khatir. Kasr al-khatir, c'est de casser et encore plus enfoncer, si tu veux, la personne dans le malheur dans lequel il est. Et c'est en même temps faire preuve de shamata. Shamata, on dit une scène shamata, c'est une insulte. C'est quoi shamata? Shamata, c'est le fait de se satisfaire et se réjouir du malheur des autres. C'est au lieu, au contraire, de le soulager de son malheur, toi tu viens te réjouir, tu lui fais des comment on appelle ça, ce fameux rire du coin de la bouche là, comme ça. Ou est-ce que au fond de toi-même tu caches une réjouissance?
C'est quoi, l'ironie de,
je sais pas comment on peut. Moi, bref. C'est ce petit sourire narquois, on dit comme ça?
C'est bon ça.
Voilà.
C'est pas un mamounisme.
Voilà. Ah, non. J'ai trouvé le mot.
Narquois, c'est
un sourire narquois, voilà. C'est ça. C'est vicieux, c'est machiavélique, c'est malsain. Ou dans lequel tu vas apprendre que quelqu'un a subi un malheur, toi tu vas te réjouir. Bah, tu vas dire bah.
Mais si c'est ton ennemi.
Alors, même si c'est ton ennemi,
si c'est quelqu'un qui a fait du mal et que c'est ton ennemi,
non.
Je te l'avais dit, la roue tourne.
Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, il n'est pas conseillé d'avoir cette attitude. Tu dis, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va te faire subir ce que tu mérites. Si tu mérites le bien, bah, ça sera le bien. Si tu mérites autre chose, ça sera autre chose. Voilà, et c'est tout. On ne doit pas même dire le mal ou l'enfer. Même le prophète, quand on disait, alors, qu'en est-il du sort des croyants et des non-croyants? Il dira, et de ceux qui t'obéissent et de ceux qui ne t'obéissent pas. Le prophète disait: man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'obéit ira au paradis. Wa man asani, il dit pas, et celui qui me désobéit ira en enfer. Il n'ose pas le dire, ce mot-là. Il dit faqad aba, aura refusé. Celui qui ne m'obéit pas aura refusé d'aller au paradis. Donc il ne va pas jusqu'à vouer à l'enfer. Il n'aime pas avoir cette attitude vengeresse en disant bah, « Je vous avais prévenu, ah, tant pis pour toi, la roue tourne, comme tu dis, Philippe. » Non, le croyant n'est pas dans cette démarche malsaine qui salit son cœur, parce que c'est lui, il se fait du mal à lui-même en ayant cette attitude-là. Tu dois au contraire te lamenter, te dire « Voilà, peut-être que j'ai pas eu les bons mots pour le convaincre de m'écouter, de suivre mon point de vue. » Quand je l'ai mis en garde, c'est peut-être à cause de moi. Ben c'est dommage qu'aujourd'hui il soit en arrivé là et qu'il lui arrive tel malheur, etc. Voilà, c'est ça que doit avoir l'esprit le croyant, et non pas de se satisfaire du malheur des autres, même si cette personne-là est ton ennemi, qu'elle te souhaitait tout le malheur du monde. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de salir ton cœur en t'imprégnant de cet esprit de vengeance en souhaitant le mal et être dans une démarche de ce qu'on appelle en arabe shamata, et qui est, comme je le disais, le contraire de jabr al-khatar, c'est taksir khatar, taksir de casser le moral de la personne qui est déjà démoralisée. Et donc enfoncer la personne et remuer le couteau dans la plaie. Mm-hmm. C'est un peu aussi une expression qui va dans le même sens.
Est-ce qu'il y a une définition en islam de l'empathie?
Bah, c'est la même que l'on a dans le dictionnaire français, hein, Philippe. C'est faire preuve de compassion à l'égard d'une personne qui est en détresse, de venir en son aide, de le soulager, de le réconforter, de le soutenir, et voire même de l'aider à sortir de la détresse dans laquelle il est. Voilà, c'est simple. Bon, moi, j'ai pas lu la définition qu'il y a dans le dictionnaire. Vous pourrez chacun à votre aise regarder, mais ça veut à peu près dire ça. C'est prendre du temps, de son temps, pour l'offrir à une personne qui souffre et se tourner vers elle, alors qu'elle t'interpelle, elle te dit « aide-moi », et toi tu te tournes vers elle et tu viens l'aider. Eh bien, ça n'est pas perdre son temps, parce que cette action-là, Dieu le aura la même au moment où tu l'imploreras. Il se tournera vers toi et te dira « qu'est-ce qu'il y a, mon serviteur ? Que veux-tu ? Que t'arrive-t-il ? Toi qui viendras implorer Dieu pour qu'il te pardonne tes fautes, pour qu'il te donne sa satisfaction et son agrément, en te tournant toi vers Dieu, vers la personne en détresse, Dieu se tournera vers toi, comme le dit le hadith « Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ».
Quel est le statut de l'empathie en islam, Abdelali ?
C'est une forte recommandation, c'est une sunna mustahabba que le prophète avait et que même Dieu lui-même avait. C'est une noblesse de caractère, je dis bien, un comportement qui tend vers l'idéal, vers ce qui va répandre la paix, qui va répandre l'amour, la fraternité, la solidarité. Et qui va se débarrasser chacun d'entre nous d'un vice qu'on appelle l'égocentrisme. Hein, le fait de faire preuve d'égocentrisme, de dire « après moi le déluge » comme on l'attribue cette phrase à Louis XIV, à ce qui paraît, je ne sais pas vérifier. En tout cas, celui qui dit « après moi le déluge », c'est un égocentrique par excellent. Il dit « voilà, moi d'abord et après les autres. Je m'en fous de ce qui peut arriver aux autres, puisque moi d'abord, j'ai sauvé ma peau, j'ai eu ce que je voulais, j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai réussi dans ma vie, j'ai obtenu, voilà, etc., etc. Et les autres, tant pis pour eux. » C'est exactement le contraire de l'empathie. Quand on est empathique, on n'est pas dans cette démarche, on souhaite le bonheur pour tout le monde.
Alors c'est Louis XV.
C'était Louis XV, je croyais que c'était Louis XIV.
Bah tout augmente.
Ah bah tu vois, après 14, bah, il y a 15.
Moi je pensais que c'était Trump, mais bon c'est Louis XV.
C'est un peu.
C'est Louis XV.
C'est aussi beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses pour ceux qui sont après eux justement. Ils disent après moi le déluge, et c'est finalement eux qu'on en fait le plus, hein, en construisant des châteaux. Des merveilles qui ont du patrimoine national et qui ont fait le plus pour après eux, quoi, parce qu'ils disent après moi le déluge. Ça n'a pas du tout été le déluge, au contraire, puisqu'ils ont enrichi la France d'édifices d'héritage patrimoine et d'un patrimoine extraordinaire. Bon, voilà, revenons donc à cette empathie que Dieu a manifestée. Nous avons parmi elles cette empathie que Dieu a, par exemple, a fait preuve en disant à Maryam, alors qu'elle était en train d'accoucher, « Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi wa qarri ayna » et sois réconforté, Maryam, ne pense pas que ce qui t'arrive est un malheur, alors que tu es en train d'accoucher d'un enfant sans père, sans qu'il y ait eu un... C'est vrai, les gens vont t'accuser, mais t'inquiète pas, je suis là, ton Dieu. Il était là, Rabbel Alamin, au moment où est-ce qu'elle était. Carrément, elle dit, Ya laytani kuntu nasiyan mansiya. Elle disait, j'aurais bien voulu n'avoir jamais existé, que d'avoir été oublié, que de ne pas avoir été, que quelqu'un ait pensé à moi pour me donner vie et pour que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation-là. Eh bien là, Dieu va lui dire, wa qarri ayna, hein, wa kuli wa sharbi wa qarri. Mange et bois, ta faim. Et soit rassasié et justement soit réconforté, il y a Maryam. La mère de Moïse, Imra'atu Imran, la mère de Moïse, elle aussi, quand Dieu lui dira « jette ton enfant dans le Nil », t'imagines, jeter son enfant dans le Nil, avec le risque que cela comporte, qu'il puisse être noyé à la première vague, que le berceau se retourne et que Moïse se retrouve sous l'eau et mort. eh bien, Dieu lui dira et la réconfortera. Il dit, inna radduhu ilayk. Nous allons te le rendre, t'inquiète pas. Et de toute façon, si tu le mets pas dans le, tu m'obéis pas, ce sont les soldats de Pharaon qui vont venir le tuer. Donc, obéis-moi, fais ce que je te dis et sois rassuré car je te le rendrai. Quand Allah Azza wa Jal intervient, alors que Youssouf, tu connais le prophète Youssouf, que ses frères ont jeté dans un puits. T'imagines, l'enfant, un gamin. Hein, on a cet événement-là qui est en train de vivre en direct aujourd'hui. Nous sommes en train de sauver un enfant d'un puits, là, aujourd'hui, qui s'appelle Rayan au Maroc. J'implore Allah Azza wa Jal qu'il le soulage de sa souffrance et qu'il le réconforte au fond de ce trou dans lequel il est et qu'on puisse, Inch'Allah, le sauver rapidement. Faites des doigts à chacun chez vous pour que cet enfant soit sauvé de la situation dans laquelle il est. Les sauveteurs sont bientôt au niveau de l'endroit où il est, Inch'Allah. J'espère qu'ils vont bientôt le sortir. J'espère que c'est dans ces minutes-là et dans ces quelques secondes dans lesquelles nous parlons que cela arrivera, Inch'Allah, ya Rab. Allahumma farj alayhi ya Rabbil alamin. En tout cas, ce qui est important de rappeler de cette histoire de Youssouf alayhi salam, c'est qu'au moment où ses frères le jettent dans le puits, alors qu'ils pensaient que s'il restait dans ce puits, ils allaient mourir tout seuls, t'imagines, en plein milieu du désert, dans un puits, eh bien, Dieu envoie l'archange Gabriel pour rassurer, réconforter, envelopper dans ses ailes Sayyidina Youssouf alayhi salam et lui dire, tu pourras un jour, ya Youssouf, tu pourras leur rappeler ce qu'ils ont fait alors qu'ils ne se rendront pas compte. Tu leur rappelleras ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ce qu'ils t'ont fait aujourd'hui, tu les rappelleras. Il n'a pas dit tu te vengeras. Il n'a pas dit ya Youssouf, tu te comporteras œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, etc. Voilà, comme ils t'ont fait du mal, ils ont voulu ta mort, ils ont voulu se débarrasser de toi. Eh bien, toi aussi, un jour, tu auras le pouvoir de te venger d'eux. Non, il a dit tu les rappelleras. Tu seras en mesure la tunabbi annahum bihada wa hum la yash'urun, tu les rappelleras de cet événement qu'ils ont fait, de cette chose qu'ils ont, cette cruauté qu'ils ont menée contre toi sans qu'ils s'en rendent compte, wa hum la yash'urun. Et donc voilà, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je termine juste par celle-là, quand il a pendant quelques dizaines de jours décidé de ne pas envoyer la révélation pour laisser son prophète se reposer un petit peu, le prophète a pensé qu'il avait été tout simplement rejeté et qu'il n'était pas à la hauteur de la révélation. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur lui le verset qui dit wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a ouvert la poitrine. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na, etc., etc. On reviendra dessus après, Inch'Allah.
Voilà, puisqu'on parle de l'empathie ce matin, Imam Abdelali, avec vous, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons de l'empathie en islam ce matin avec l'imam Abdelali Mamoun. Je rappelle, imam Abdelali, que vous partez bientôt à la Omra, donc c'est le moment.
Oui, c'est le moment de s'inscrire, Inch'Allah ta'ala. Il faut vraiment que ceux qui souhaitent, qui ont envie de partir avec moi, découvrir l'histoire, le berceau de l'islam, vivre un moment de spiritualité d'une intensité extraordinaire, marcher sur les pas de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où il a vécu à Médine ou à la Mecque, eh bien, il faut m'appeler, donc il faut me contacter au 06 29 25 35 00. Je répète, le 06 29 25...
Alors ça, je peux pas...
06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00. Non, j'avais la tête ailleurs. 06 29 25 35 00. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent me rejoindre dans ce parcours extraordinaire.
Bien, Imam Abdelali, est-ce qu'on peut dire de Dieu qu'il est empathique? Est-ce que c'est un de ses attributs?
Ah, c'est clair qu'il est empathique. Son prophète lui-même a reçu l'ordre de devenir empathique et de faire preuve d'empathie. Lui-même était très empathique. Il l'a montré à maintes reprises dans le Coran et montre combien il a, par exemple, à l'égard de notre prophète bien-aimé Mohammed, combien de fois il l'a réconforté en lui rappelant qu'il ne pas s'inquiéter de ce que peuvent, on va dire, comploter contre lui ses détracteurs, et qu'il était là pour le soutenir, qu'il était là pour l'aider, qu'il empêcherait que quiconque ne lui fasse de mal, etc. Donc constamment, Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve d'empathie tout au long de l'histoire des prophètes à travers l'histoire de l'humanité, depuis Adam.
Mais alors, Imam Abdelali, je ne sais, sais pas ce que vous avez déjeuné.
Ce matin.
Mais ouais. Alors là, moi je dis...
Donc je disais...
Je vais vous changer vos croquettes.
Ouais, pourquoi pas. Alors, allons-y. Je disais, depuis Adam jusqu'à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien après, puisque Dieu intervient quand quelqu'un l'invoque, l'implore, pour qu'il fasse preuve d'empathie, qu'il soit à l'écoute d'une personne en détresse. Donc, en fin de compte, l'empathie sert à soutenir les personnes qui sont en difficulté. C'est surtout pour demander à chacun d'entre nous de s'imprégner de cette caractéristique divine, d'être dans l'esprit de solidarité, de fraternité, de ce qui va contribuer à consolider les liens entre les membres d'une communauté. Et quand je dis une communauté, il ne s'agit pas simplement d'une communauté de croyants, mais de créatures vivantes, à proximité les unes contre les autres. Le croyant musulman ne fait pas preuve d'empathie que pour les musulmans. S'il voit une personne en détresse et qu'elle est convaincue même qu'elle n'est pas de confession musulmane, elle n'a pas besoin de dire « Ah ben non, toi, tant que tu n'es pas musulman, je ne serai pas là pour t'aider. Je n'aiderai, je ne soutiendrai que mes frères musulmans. » C'est pour cela que même la zakat, vous pouvez tout à fait, et vos sadaqat, les donner à des organisations non musulmanes, telles que Secours Populaire, ou les Restos du Cœur, ou Médecins Sans Frontières, ou je sais pas quoi, l'UNICEF, etc., etc., qui sont des organisations qui vont aider les gens par pure empathie et de manière totalement désintéressée, sans avoir une volonté de convertir, parce que de toute façon, c'est interdit que d'utiliser l'argent pour convertir. On n'a pas le droit d'utiliser la pudeur et la honte des gens dans lesquels vous avez une position de supériorité pour les menacer de, on va dire, dans leur dignité, les menacer de porter atteinte à leur honneur et leur dignité. En utilisant l'argent et l'aide que vous leur avez apportée, et en les rappelant à chaque instant, ben grâce à moi je t'ai sauvé, bon grâce à moi t'es sorti de ta galère, ce genre de man wa adha, comme qui a été dénoncé dans le Coran et qui a été tout simplement prohibé et interdit par Dieu. Quand il dit la yaladina manu la tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adha, ne faites pas suivre vos sadaqat, vos actes d'aumône, vos actes de générosité par ce rappel et par le tort que vous pourrez faire aux personnes en disant par exemple haut et fort devant tout le monde, ouais regardez, moi c'est grâce à moi que cet homme il en est là où il est, c'est moi qui l'a sorti de la galère, etc. Tout ce, même si t'es toi tout seul entre toi et lui, tu n'as pas le droit de le faire. Normalement on doit, comme on nous dit dans les expressions arabes, hein, fais le bien et oublie-le, et fais le mal et ne l'oublie pas, hein. Fais le bien et oublie-le, dis le khair unsa, hein, ou dis le shar utfakra. Tu dois penser au mal que tu as fait pour t'en repentir, pour promouvoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et espérer qu'Allah te pardonne ce péché. Mais surtout pas l'oublier, ne pas oublier ses fautes, eh bien, est un devoir pour justement éviter de ne pas s'imprégner d'orgueil, de prétention d'être l'être parfait, puisque de toute façon l'être parfait n'existe pas et que tout fils d'Adam est un pécheur et que le meilleur des pécheurs est ceux qui se repentent. Et ce sont ceux qui se repentent, comme le dit le prophète. Kullu bani Adam khatta, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Voilà.
Alors on va prendre Nassera qui vous attend au 01 53 48 3000. Imam Abdelali, Nassera, bienvenue.
Et bonjour Philippe.
Alors Nassera, on va vous demander simplement de baisser la radio si vous voulez bien.
Pas de souci. Okay.
Comme ça, on va pouvoir bien vous entendre.
Et pas avoir d'écho surtout.
Vous
d'ailleurs.
Bien.
Alors, bah c'est bien. Alors on y va, on vous écoute Nassera.
Oui, bonjour Cheikh.
Oui, alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Madame, ya Cheikh, je vous appelle pour faire des doigts pour ma mère qui est très malade en Algérie.
Allah yashfiha ya rab alalamin. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها اللهم رد لها صحتها وعافيتها. On implore Allah qu'il lui accorde un prompt rétablissement et qu'il lui redonne la santé et la vigueur pour, Inch'Allah, encore vivre longtemps et donner beaucoup d'affection à ses enfants et recevoir aussi de ses enfants autant d'affection, Inch'Allah. Mais allez lui rendre visite, hein. Pourquoi vous n'allez pas la voir?
Oui, c'est compliqué, mais on a essayé. On va y aller, Inch'Allah. Ça fait un mois que je suis revenue déjà, je suis déjà partie.
Ah, vous étiez là-bas? Et elle était déjà malade quand vous étiez là-bas?
Ça fait un an. Oulahu A'lam, elle a fait tous les examens, elle a tout fait, mais ils n'ont rien trouvé. Et là, elle s'est retrouvée à l'hôpital.
Donc, on ne sait même pas de quoi elle est malade?
Ils ne savent pas.
Mais c'est quoi ces symptômes?
Eh bien, ça a commencé par la tension. C'est une personne, elle a 75 ans.
Ah, ben, forcément, il y a l'âge aussi.
Non, elle avait de la tension, ça fait 40 ans. Donc, elle avait un traitement. Ils n'arrivent pas à régler, à doser.
Mais bon, madame, le corps, il se détériore avec le temps. Tout un chacun viendra un moment dans sa vie où est-ce qu'il perd... l'énergie et la force et la vigueur de la jeunesse, hein, la vieillesse, c'est ça, c'est un moment de faiblesse aussi. Et donc on supporte moins les petites maladies qui deviennent, parce qu'on est faible, de grosses maladies à cause de la santé, de la vigueur du corps humain qui est détérioré par le temps. Et Hada, ça fait partie de la vie, hein, la vie. On est obligé à arriver à un moment donné à une période où est-ce que le corps se dégrade et régresse, et puis après on meurt, hein. tout le monde va mourir.
Tout âme goûtera
la mort. On a besoin des doigts,
du courage. Oui, Inch'Allah. Pour elle
surtout.
Allah
yashafiha wa yatikum inshallah al-quwwa was-sabr inshallah ya rab.
Merci.
Allah yafiha ya rab al-alamin.
Merci,
Philippe,
bonne journée.
Merci, Nassera, et on est de tout cœur avec vous et on vous accompagne, Nassera. Alors, on a Abderrahim qui était au 01-53-48-3000. Abderrahim, bienvenue.
Allô?
Oui, ah, salam alaikum.
Oui, Abderrahim. Oui, c'est Abderrahim de Sanema. Vous allez bien?
Ça va, khoui, Allah yberfi, kunta?
Ça va, très très bien. Ahla. Merci, alhamdoulilah. Donc, j'ai une question... donc c'est par rapport à la prière.
Oui.
Donc je voulais savoir, parce que je travaille l'après-midi, donc je commence à 14h et je fais la prière de Dhuhr avant d'aller travailler. Et je voulais savoir, est-ce que je peux faire Dhuhr et l'Asr en même temps?
Alors,
j'ai pas la possibilité.
C'est à quelle heure? C'est à quelle heure?
C'est-à-dire à quelle heure?
Bah, à quelle heure tu fais Dhuhr et l'Asr?
L'heure de Dhuhr. Donc j'ai le temps de faire Dhuhr à la maison.
D'accord. Et est-ce que tu penses rentrer à la maison avant le Maghreb?
Non, parce que je finis à 22h. Voilà, d'accord. Je commence à 14h, d'accord. Je finis à 22h.
Et pendant ton travail, tu n'as pas une pause?
J'ai une pause, mais il n'y a pas d'endroit pour faire la prière.
Qu'est-ce que tu appelles à l'endroit? Tu travailles, c'est quoi ton domaine, ton
Moi,
activité?
Je suis mécanicien. Je suis mécanicien, voilà.
Dans un garage, donc?
Non, dans une société. C'est mécanique. C'est plus mécanique des machines.
Mécanique des machines. Voilà, et cette société-là, elle n'a pas de vestiaire, elle ne te met pas à la disposition un endroit où tu peux reposer au moment de ta pause, il n'y a rien du tout.
Non, il n'y a rien du tout.
Et tu n'as pas le droit d'utiliser, par exemple, un carton.
Effectivement, voilà. Non, on n'a pas le droit.
Écoute. Voilà. Donc tu fais Dhuhr al-Asr à l'heure de Dhuhr, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Voilà, donc j'ai posé toutes ces questions-là parce qu'elles sont nécessaires à utiliser cette dérogation que de regrouper Dhuhr al-Asr en cas de difficulté, en cas de contrainte. S'il y a la contrainte, tu peux. S'il n'y a pas de contrainte et que tu peux prier al-Asr à l'heure, tu dois prier al-Asr à l'heure. Voilà.
D'accord. Voilà, je vous remercie pour la réponse.
Je t'en prie.
Merci.
Bon week-end, Abderrahim. Est-ce qu'on a le temps de prendre un autre appel? Non. Alors, non, on n'a pas le temps, nous dit Maître Bouali, qui gère le temps de cette émission. Vous pourrez poser vos questions à l'imam Abderrahim
Juste dans un instant. Pause. On est encore avec les auditeurs, Inch'Allah.
Jusqu'à 11h, 01-53-48-3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et tous les samedis, l'imam Abdelali est en direct entre 10h et 11h. Imam Abdelali, vous répondez aux questions des auditeurs de Beur FM au 01 53 48 3000. Et nous avons Fatia qui est avec nous. Fatia, bienvenue.
Salam alaikum, bonjour.
Salam alaikum, salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Moi j'ai une petite question par rapport à la prière qui ressemble très la même question que le monsieur là qui vient de passer. Mais par contre, moi c'est salawat sabah. C'est le matin, je sors avant Sobh et je rentre avant Dhuhr. Donc,
vous ne pouvez pas prier la prière avant l'heure, c'est pas possible. Pour ce qui est de le Fajr, même pour Dhuhr, hein, Là, d'abord, l'autre personne, sa situation n'est pas du tout la même, parce que lui, c'est quand même l'heure, c'est quand même la plage horaire de sa prière obligatoire. C'est dhor et c'est pas avant dhor. Il prie dhor à l'heure. L'asar peut être, en tant que sœur jumelle de dhor, être prié avec dhor. Mais le fajr, non. Il n'y a pas de dérogation possible pour le fajr. Le fajr, vous devez la faire dans sa plage horaire. La plage horaire de le fajr, c'est entre le lever de l'aube, c'est-à-dire tolou' al-fajr, et la waqt al-shuruq, jusqu'à l'heure du lever du soleil. C'est-à-dire l'apparition du disque solaire à l'horizon. Quand le soleil apparaît à l'horizon, ce qu'on appelle shuruq, eh bien, c'est la fin. Cela correspond à la fin de l'heure de subh.
Donc du coup, je ne fais pas subh alors. Je ne le fais pas. Si je rentre à Fadr, ce serait trop tard.
Non, vous la faites quand même, puisque vous avez ce qu'on appelle fait. Non, vous devez quand même rattraper vos prières que vous avez négligées et que vous n'avez pas fait à l'heure. Je répète, qu'une prière que vous n'avez pas fait à l'heure, vous devez quand même la faire même après. Hein. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de trouver une activité, un horaire, quelque chose, un aménagement de votre travail qui vous permet de faire vos prières à l'heure. Je vous dis pas de quitter immédiatement votre travail et d'aller chercher quelque chose d'autre. Je dis gardez votre travail, mais soyez dans cette démarche, dans cet effort de vouloir, de chercher un travail. Ou même dans la même entreprise, hein, pas forcément dans une autre, ou dans lequel on vous permettrait de faire vos prières à l'heure. Voilà. Et je dis ça à vous, je dis ça à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui veulent faire la prière à l'heure, c'est de faire en sorte que leur cheminement professionnel soit dans la logique d'obtenir des facilités pour faire vos prières et non pas des facilités pour avoir, par exemple, forcément des augmentations, etc., etc. Non, la priorité, c'est d'obtenir quelque chose qui vous permet de vivre votre religion comme vous le souhaitez et comme cela correspond à votre cheminement spirituel. C'est ça la priorité dans la vie de chacun. On doit avoir ce rendez-vous avec Dieu 5 fois par jour, essayer de trouver le travail.
C'est compliqué pour moi. Je suis dans le bus de 5h du matin jusqu'à midi. C'est
d'accord.
Très compliqué.
Je peux connaître la nature de votre activité.
Elle doit conducteur de bus.
J'ai pas entendu. Rien, Inch'Allah. Oui. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Peut-être demain, Inch'Allah, vous allez évoluer, avoir peut-être votre propre véhicule ou avoir d'autres horaires. Trouver d'autres horaires avec les RTP.
Je peux la faire en position assise sur mon siège?
Non.
Parce que des fois, non, c'est pas possible.
Pas possible. Voilà. Vous n'êtes pas handicapé pour la faire assise. Je dis ça à vous et à tout un chacun. Ceux qui sont autorisés à la faire assise, ce sont ceux qui ont
handicap.
Non, pas seulement. Mais ceux qui ont, par exemple, la contrainte de rester assise. Ils sont obligés. Par exemple, un voyageur dans un avion, un voyageur dans un train, il peut pas descendre. Un voyageur dans un bus de longue distance. Hein, je parle pas des bus de ville hein, où ce qui s'arrête toutes les 2 minutes à une station. Non, ça c'est pas. Non, mais ceux qui ont par exemple une distance très longue et ils n'ont pas le choix que de la faire assis sur leur chaise. Oui, ils la font assis
mais
sur leur chaise.
Quand vous êtes chauffeur de bus, en fait, même si vous vous arrêtez tous les 2 minutes, vous êtes au volant. Donc c'est pas vous qui vous arrêtez. Pas,
effectivement.
Bon, là.
Mais voilà, je dis bien à madame d'attendre de rentrer chez elle pour faire sa prière. Dans un premier temps, à court terme, vous continuez à faire comme ça. Vous rentrez à la maison, vous faites votre prière. Mais essayez, je dis bien, vous faites la niya auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous faites d'implorer Dieu qu'il vous aide à faire en sorte que vous puissiez avoir un horaire qui soit adapté et qui vous permette de faire votre prière à l'heure. Voilà.
Mais entre 5h et midi, vous avez des pauses, non, quand même, Fatia?
Oui, j'ai des pauses, mais c'est pas possible. Déjà, la tenue, je porte pas le voile, donc c'est pas possible que...
Non, il faut que ça soit dans un endroit où est-ce qu'elle peut s'enfermer, mettre sa robe pour faire la prière, et tranquillement pouvoir accomplir sa prière sans être surprise par qui que ce soit qui pourrait l'embêter alors qu'elle est en train de faire sa prière. Alors, donc voilà, c'est vrai que je comprends que c'est pas évident, que dans ce genre de milieu, c'est compliqué.
Et j'ai une autre petite question, s'il vous plaît.
Oui.
Et quand je me réveille le matin avant de sortir, je fais des rak'at comme ça,
c'est très bien.
Donc quoi, en fait, c'est nafila?
C'est nafila de la nuit.
C'est qiyam al-layl.
Voilà, ça s'appelle qiyam al-layl ou bien voilà, nafila.
Okay. Ok, ça marche.
Voilà, tout à fait.
Parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire.
Écoutez, dans cette prière de la nuit, dans la prosternation, demandez à Dieu de vous aider à faire votre prière de l'fajr à l'heure. et demandez-lui de trouver les circonstances, les causes qui vont vous permettre de faire votre prière à l'heure. C'est Allah.
Enfin, je peux les faire à l'heure parce que c'est des plannings, c'est un roulement. Je peux les faire quand je suis l'après-midi, je fais.
Ah ben bah voilà, eh bah c'est parfait.
Et oui, c'est pas tout.
Mais quand c'est le matin, voilà, quand c'est le matin, vous pouvez pas.
Voilà, quand c'est le matin.
D'accord.
Ouais. D'accord. Ok, ça marche.
Shukran, barakallah. Allah
yassalak l'omour. Bon, vous êtes sur quelle ligne, Fatia?
Je suis sur la ligne de Créteil, la ligne 23.
Ah, voilà.
Enfin, je fais toutes les lignes. Je fais Créteil, je fais Verneuil. Il y a plusieurs lignes. D'accord. On n'est pas attitré sur une seule ligne.
D'accord.
On est appelé à faire un roulement, à passer partout.
D'accord.
Bon, bah, écoutez, on fera un coucou.
Vous habitez par là-bas aussi?
J'habite à Comblaville.
Ben voilà, c'est une voisine.
Comblaville, non, c'est plus au sud, c'est dans le 91, je crois.
Non, c'est dans le 77.
Ah oui, c'est Melun. Melun,
c'est le Marne. Ouais. Ouais,
c'est la frontière, hein, c'est pile poil là, au milieu, là, entre le Seine-et-Marne et l'Essonne.
Marne-la-Vallée, oui. Mmh. Ok. Mmh. Merci beaucoup.
Bah, je vous en prie, madame.
Et bonne journée.
Merci, Fatia. On accueille Samir qui est avec nous au 01 53 48 3000. Samir, bienvenue.
Allô, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Et même, elle dit juste deux questions, si ça ne vous dérange pas. J'ai la première question, c'est juste pour savoir si on peut prendre un crédit au nom d'une société. Est-ce que c'est valable ou c'est interdit?
Mais la société est à toi?
Oui.
Eh ben, c'est la même chose, bien sûr. C'est comme si c'est toi qui l'avais fait.
D'accord.
Donc non.
Ça s'appelle la ruse. C'est ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez ruser avec Dieu? On ne peut pas ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc non, faire ça en son nom, au nom de sa société, c'est la même chose. Tu ne dois pas être associé à la signature d'un contrat usurier.
D'accord.
Voilà.
Et la deuxième question, s'il vous plaît, c'est est-ce qu'on peut prendre un véhicule au leasing?
Oui, oui. Le leasing, c'est-à-dire location avec option d'achat. C'est bien ça?
Voilà, c'est ça.
Location avec option... Non, ça, c'est pas riba. Il n'y a pas de crédit, là. Là, il y a simplement tu loues, et à la fin, tu achètes. Il n'y a pas de riba, là. Il n'y a pas de crédit.
Non, il a dit crédit bail.
En fait, le leasing et crédit bail, c'est la même chose. Hein.
Ouais. Bon, alors, en tout cas, s'il est bien clair que ce que tu payes, c'est une location. On est bien d'accord?
C'est une location. Ensuite, après, on a une option de l'acheter.
Voilà. Et ça, c'est halal, il n'y a pas de problème. Louer et acheter en islam, c'est autorisé. Pas de difficulté.
D'accord. Ok,
allez.
Ça marche.
Allah,
merci beaucoup.
Barakallahu fik. Wa alaykum
salam. Il y a pas des clauses du contrat qu'il faut quand même vérifier dans le
leasing? La seule clause que soulèvent certains rigoristes, que
c'est l'assurance.
Je ne vais pas donner de nom parce qu'effectivement il y en a qui sont contre. Oui, voilà, c'est exactement. T'as tout fait.
Non, parce qu'on avait fait une émission. Je me rappelle qu'on avait regardé tous les textes.
Et parce que à cause de l'assurance, que c'est le locataire qui paye l'assurance au lieu du propriétaire, alors que normalement la règle juridique c'est al-ghurmu bil-ghunmi, c'est-à-dire que autant que c'est toi qui profites de la location puisque tu touches une location, c'est à toi d'assumer
le coût de l'assurance.
Non, en fait, il y a même, en vrai, c'est même pas ça. C'est le risque de dégradation du bien. Le risque de dégradation du bien, c'est au loueur, à celui qui loue à l'autre. D'en assumer les responsabilités. Donc l'assurance qui va dans ce sens-là devrait être à la charge du loueur. C'est ça, hein, comme ça. On dit loueur, celui qui loue à l'autre.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, celui qui loue au locataire, voilà. L'autre est le locataire.
Le loueur, c'est celui qui a le véhicule et le locataire, c'est celui qui le loue.
Qui le loue. Voilà, c'est ça.
Il paye un loyer. Louer est un verbe qui marche des deux côtés.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est compliqué.
Pour les mamounismes, ça aide pas.
Mais en tout cas, j'espère que tous les auditeurs auditrices ont bien compris de quoi il s'agit. C'est la difficulté, je dis bien, c'était au sujet de l'assurance que celui qui loue, le locataire donc doit payer à une assurance, et comme quand vous avez une voiture, bah, vous assurez le véhicule puisque vous roulez avec, donc vous devez assurer le véhicule. C'est la règle aujourd'hui en France, quand vous louez un véhicule à longue date chez un loueur, vous devez donc en longue durée, ce qu'on appelle un fameux leasing, eh bien c'est à vous de payer la location. Écoutez, moi, ce que je dis, c'est que c'est aussi le locataire d'un immeuble, d'un logement dans un immeuble qui paye l'assurance.
C'est obligatoire.
Voilà, c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Donc, à partir de là, On ne peut pas déroger à la contrainte qui est imposée par la loi. Donc on se soumet à la loi française.
Alors vous avez redemandé le numéro de l'imam, mais c'est vrai qu'il y a une omra qui est organisée, donc c'est dans quelques jours, c'est maintenant qu'il faut vous préparer, hein, imam Abdelali.
Oui, tout à fait. Donc ceux qui veulent s'inscrire, c'est pas compliqué, il me faut un passeport, une photo et le pass sanitaire. Et on passera un test PCR avant de monter dans l'avion, inchallah ta'ala. Voilà, c'est les seules contraintes.
Qui fait les
contraintes. Non, je fais pas le. Non, vous le faites faire par un spécialiste, par le centre de vaccination. Non, de test.
De test. De l'aéroport directement.
Ouais. Pas forcément. Non. On peut le faire à côté de chez soi aussi. Il faut qu'il ait moins de 48 heures avant de monter dans l'avion. Donc effectivement, donc vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Il reste pas beaucoup de place. Allez-y, venez, inscrivez-vous 06 29 25 35 00 06 29 25 35 00. Je voulais aussi faire une. J'ai encore le temps, Philippe.
Une minute.
Alors, je suis à la recherche d'un petit studio pour la personne qui est atteinte du cancer, qui voudrait pouvoir accueillir sa famille, qui va venir le réconforter, le soulager ici en France. Donc si quelqu'un il a un logement, quelque chose à louer ou à prêter.
Pour combien de temps?
Pour deux mois.
Deux mois.
Un mois ou deux. Un mois, deux mois. Voilà. Donc celui qui peut accueillir cette personne-là, bien sûr, dans un logement séparé, donc totalement indépendant. On est preneur. Donc bah, pareil, vous m'appelez sur mon portable 06 29 25 35 00. Pareil pour ceux qui voudraient faire une omra par délégation pour un défunt ou un hajj par délégation. Vous pouvez m'appeler pour une personne décédée, par exemple, vous voulez faire un hajj, vous financer un hajj pour une personne décédée qui n'a jamais fait le hajj. Vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Voilà, tout est dit, Philippe, et je vous souhaite une bonne fin de semaine.
Voilà, je voudrais vous dire qu'on vous rejoint et on vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi avec Julia Cesdefjan. C'est une des plus jeunes chefs étoilés de France.
Bravo.
Voilà, c'est une exclusivité de Manuel Mariani. Donc tout à l'heure, dans Dessus de Table, midi 13h, et nous parlerons du pois chiche.
El hummus.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.